Bonjour Tom Jo, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous parler du site internet sur lequel tu écris des articles?
Chez Renard.
Chez Renard, c'est ça, avec un T.
Voilà, chez Renard. Oui, voilà, c'est la tanière de ce personnage médiéval qui s'appelle Renard, qui a donné son nom à l'animal qu'on appelait jadis le goupil. Voilà. Mais il était tellement célèbre que le goupil a fini par prendre le nom de Renard, quoi. Et voilà, et notamment dans la région, c'était un personnage important parce que c'est une histoire, donc c'est l'histoire d'un renard qui joue des tours à la bonne société, aux marchands, aux clercs, aux curés, aux rois, etc. Et puis c'est une histoire plutôt un conte, à mon avis, plutôt oral, mais qui se fixe à l'écrit en néerlandais d'abord et puis en français à Lille au XIIe siècle. C'est pour ça qu'on a pris le nom de ce personnage qui nous plaisait bien pour ses aventures et sa critique de la société, quoi.
Et alors justement, en parlant de critique de la société, est-ce que tu peux un peu brosser les thématiques et les angles de vue qui sont sur ce site internet, donc chez chez-renard-info?
Ouais. Alors, Renard, donc c'est de l'information locale, régionale, plutôt basée sur le Nord-Pas-de-Calais. Et dont l'objet est plutôt porté par l'écologie. On parle plutôt d'écologie, on va dire. Mais d'une certaine manière, c'est-à-dire que contrairement à la plupart des écologistes, nous, on n'accorde pas trop de crédit aux solutions technologiques qui sont en général proposées comme des panacées. Et ce qu'on veut poser comme question première, c'est la question de nos besoins. Voilà, question qui n'est jamais posée et qui nécessite pas moins de, à mon avis, questionner absolument toute la société, quoi, nos besoins en transport, en alimentation, etc. Et pas juste quelques petits bouts par-ci par-là.
Alors justement, pour la question du besoin en énergie, on y reviendra à la fin de l'entretien. Pour commencer, moi, je partirais d'un article que tu as écrit récemment. Ça parle de nucléaire et d'éolien et de transition énergétique. Pour revenir déjà sur le nucléaire, j'aimerais savoir quel est ton constat sur la prétendue volonté politique du gouvernement de réduire le nucléaire de 75% à 50%.
Bah, en fait, ça veut rien dire, ça. Vu qu'on parle en termes relatifs, vu que c'est des pourcentages. Donc il n'est pas forcément. Il est question de réduire la part du nucléaire dans l'énergie électrique, pas le nucléaire en tant que tel. C'est-à-dire que si on conserve exactement le nombre de réacteurs qu'il y a aujourd'hui, je ne sais plus si c'est 54 ou 52 ou je sais pas quoi, on peut les garder, juste on fout plein d'éoliennes partout et statistiquement, la part du nucléaire va baisser. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on se libère du nucléaire, c'est juste qu'on fait augmenter la part de ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Donc voilà, ça c'est un peu une entourloupe dans laquelle est rentré un peu tout le monde, ou a fait semblant de rentrer tout le monde, notamment tous les écologistes officiels.
Et alors justement, en parlant de ce. Donc tu parles d'entourloupe, tu parles de transition, de virage voilà, énergétique. Tu en parles bien dans ton article. Est-ce que tu peux revenir sur ça, les conséquences de l'implantation de l'éolien et les différents positionnements des partis politiques de gauche?
Ouais, alors en fait, il y a quand même une espèce de consensus autour de l'implantation de l'éolien qui va des industriels au quasiment toute la classe politique, quoi. Peut-être un peu à droite, ça râle parfois. Enfin, en tout cas, localement, dans la région, Xavier Bertrand, lui, il est assez sensible aux Picards qui commencent à en avoir marre des éoliennes, quoi. Mais bon, en général, il y a quand même un consensus à la fois politique et économique sur le fait d'implanter des éoliennes et notamment des éoliennes offshore parce que ça bouffe moins de terres, peut-être de terres agricoles, ça permet de produire beaucoup plus et des éoliennes qui produisent beaucoup plus d'énergie, donc c'est économiquement plus rentable.
Tu peux revenir un peu sur ce que ça signifie offshore?
Offshore, pardon, ouais, c'est des éoliennes qu'on installe en mer, soit sur des piquets en béton, soit des éoliennes flottantes. Ça, je connais pas bien après techniquement ce que c'est des éoliennes flottantes, mais en gros c'est ça, quoi. Et donc là, effectivement, il y a plusieurs projets en ce moment en France. Il y a 7 projets qui doivent voir le jour d'ici 2027. Le premier, si je me souviens bien, c'est en face de Saint-Nazaire. Le chantier a débuté cette année. Et normalement, c'est le premier projet, la première usine d'éoliennes offshore qui doit être mise en service en 2022. Et moi, je m'y suis intéressé parce qu'il y a deux gros projets il y a un gros projet dans la région, à Dunkerque. Voilà, en ce moment, c'était la concertation publique. Je sais plus combien il y a d'éoliennes exactement, mais moi, ce qui m'avait frappé, c'est que ça se trouvait. C'est que les éoliennes doivent s'implanter dans une zone classée Natura 2000. Donc c'est une zone qui est censée être mise sous cloche, entre guillemets, pour respecter l'environnement, quoi, ce qui est assez fabuleux, d'aller implanter des éoliennes là-bas. Et en gros, concrètement, c'est un banc de sable ou plusieurs bancs de sable sur lesquels viennent se reposer les phoques et les oiseaux migrateurs qui partent de Hollande, du Danemark et qui vont en Afrique. Et qui passe par ce couloir là, le canal de la Manche, quoi. Et donc voilà, il y a un projet de je crois une cinquantaine d'éoliennes, non, 42 éoliennes offshore au large de Dunkerque, qui est déjà la ville la plus nucléarisée d'Europe. C'est peut-être la ville même où il y a le plus d'usines Seveso en France, si c'est pas en Europe. Enfin, c'est déjà un désastre pour moi, Dunkerque. À tout point de vue, et puis là, non seulement on colonise la terre, mais là on vient coloniser la mer, le paysage, et à la limite, le dernier truc qui pouvait rendre l'endroit attractif pour ceux qui vont à Malo-les-Bains, par exemple, c'est-à-dire l'horizon, même ça, on va venir le saccager, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cet article, parce que déjà, d'une part, je suis pas trop fan du consensus politique, je trouve ça louche là sur ce coup-là, et puis quoi, parce que ça, enfin, présenter ça comme un truc écologique, je trouve ça
mais alors justement,
ça convient pas.
Ouais, excuse-moi, justement, on s'interroge. Tu disais que c'est un projet qui devrait s'installer sur une zone classée Natura 2000, c'est une sorte de label, hein, qui est reconnu au niveau de l'Union européenne apparemment. Où c'est un ensemble de sites naturels ou semi-naturels qui sont classés sous ce terme Natura 2000, ouais. Parce qu'ils ont justement une valeur exceptionnelle, hein, au niveau de la faune et de la flore. Comment, si cet endroit est classé Natura 2000, comment ça a été possible du coup que ce projet d'éolienne puisse voir le jour ? Est-ce que c'est parce que il n'est pas reconnu, ce projet, comme étant destructeur pour l'environnement, ou est-ce que c'est parce que il y a eu des petites des petits...
Je sais pas dire exactement. Okay. Je sais pas comment est-ce qu'on en arrive à une décision comme ça. Ce que je sais, c'est qu'il y a des habitants qui se mobilisent, il y en a qui sont plus ou moins contre, d'autres qui réclament de changer juste l'endroit d'implantation des éoliennes, de mettre plutôt en face de Berck, ça c'est la position des Verts, je crois. Mais comment est-ce qu'on arrive à prendre cette décision-là? Je sais pas, à mon avis, il y a des questions techniques et politiques. Technique, c'est que, à mon avis, ça coûte moins cher de foutre ça sur des bancs de sable, plutôt que sur des pieux où il faut les mettre très profond. Et puis politique, j'imagine que la communauté urbaine de Dunkerque est plutôt, est même très largement, aime bien ce genre de projet industriel, quoi. Enfin, je veux dire, elle a déjà tout accepté. Si on lui propose 10 millions d'euros pour implanter ça, même 10 millions d'euros par an, c'est sûr qu'elle va accepter, et puis qu'elle va militer assez fortement pour ce projet, étant donné que la communauté urbaine profite déjà des 6 réacteurs de Gravelines, qu'elle reçoit déjà un paquet de pognon de la part d'EDF. Il y a quand même des huiles, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a tout, à mon avis, politiquement, c'est bien huilé entre la communauté urbaine de Dunkerque et EDF, quoi. Et qu'ils savent qu'on peut les acheter facilement, la communauté urbaine de Dunkerque. C'est des gens qui comptent principalement sur l'industrie lourde pour leur économie. Voilà, je pense que c'est une alliance de tout ça.
Mmh. Voilà. Et alors, tu parlais des pêcheurs de Picardie tout à l'heure. C'est quoi un peu les arguments donnés par les personnes opposées à l'éolien ? Est-ce que c'est uniquement les arguments que toi tu donnes sur un impact.
Au Tréport, ouais.
Ouais.
Bah, c'est que il y a quand même une controverse assez importante sur le fait que ces pieux en béton repoussent ou non les poissons, et notamment ceux qui sont particulièrement intéressants pour la pêche ici. Sachant que voilà, les pêcheurs du Tréport, c'est un petit port de pêche et c'est une pêche artisanale. C'est pas des trucs énormes réfrigérés, voilà, hollandais qui arrivent et qui défoncent tous les sols, enfin les sous-sols, enfin les sols marins, quoi. C'est plus une petite pêche familiale, quoi. Et donc eux m'ont dit que ces pieux en béton, en fait, repoussaient certains poissons. En fait, voilà, ces pieux cassent les mouvements de la mer. En fait, la mer, c'est comme s'il y avait des niveaux dans la mer de salinité, de lumière et des courants. Et en fait, on trouve pas les mêmes espèces selon qu'on est à 2 mètres de la flottaison ou qu'on est à 10 mètres ou à 30 mètres, quoi. Enfin, bref, et en fait, c'est un écosystème, la mer, surtout aussi proche de la côte, qui est fragile forcément et qui se retrouverait bouleversée par ces éoliennes, quoi. Et donc eux disent que c'est la mort de leur activité de pêche, quoi. Et ce qui est tout à fait possible, parce qu'effectivement il y a des études qui commencent à sortir, notamment en Belgique, une étude que je cite parce qu'ils ont des éoliennes industrielles depuis beaucoup plus longtemps, qui disent qu'effectivement il y a une baisse de la diversité marine. Donc voilà, eux ils disent que c'est ça, et puis effectivement il y a un modèle aujourd'hui qui est soit de la grosse pêche industrielle qu'on veut développer, soit de l'aquaculture, de la pisciculture, etc. Donc de l'élevage artificiel de poissons en piscine, quoi. Et donc eux dénoncent ces orientations là, quoi. C'est-à-dire on s'en fout de la petite pêche artisanale familiale dans des petits ports de pêche, et puis on va défendre la grosse artillerie, soit aquacole, soit de pêche, quoi. Mmh.
Et alors, j'aurais une dernière question. Tout ça nous amène à nous demander si on souhaite une sortie du nucléaire, comment produire de l'énergie électrique. En fin d'article, tu mentionnes quand même le fait que les autres alternatives, donc tu parlais de l'éolien avant, mais même pour ce qui est le photovoltaïque, nécessite en fait des métaux ou des composants qu'on trouve pas ici et qu'il faut aller chercher à l'autre bout de la planète et qui aujourd'hui ne sont pas faits dans des conditions de travail, on va dire, satisfaisants.
Digne,
c'est ça. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est si tout semble être néfaste pour l'environnement et pour les conditions humaines, quelle solution tu envisages pour une production d'énergie électrique ?
Bah, pour la production d'énergie électrique, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça fait une dizaine d'années que moi je fais partie d'associations antinucléaires et dans lesquelles... Nous, ce qu'on dit, c'est d'abord poser la question de nos besoins, quoi. Est-ce qu'on a besoin d'être tous câblés numériquement tout le temps? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des voitures électriques? Est-ce qu'on a besoin de ci ou ça? Et que la question de l'énergie, en fait, c'est pas une question technique, c'est une question politique et presque philosophique de quelle vie on veut, quoi. Quelle mobilité, pour faire quoi? Pourquoi se déplacer autant? Est-ce qu'on a besoin de TGV ou pas? Est-ce qu'on a besoin de... Enfin, Après, les questions techniques, elles viennent après. Normalement, mais aujourd'hui elles font office de diversion, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune association antinucléaire ou très peu d'associations antinucléaires qui veulent remettre en question radicalement notre société, quoi. Ils se satisfont des faux besoins qui sont vendus par l'industrie numérique ou du transport ou je sais pas quoi.
Oui, tu parlais en fait de volonté, en fait, finalement, de rester beaucoup dans le technologique. Pour ouais. Combler, pour remplacer entre guillemets le nucléaire, qui est pour toi quelque chose
impossible en plus. Enfin, je sais pas ce qu'il faut. Il y a sûrement des calculs. Hein, combien d'éoliennes il faut mettre sur le territoire français et de panneaux photovoltaïques pour remplacer les centrales nucléaires. Je sais pas, c'est des centaines de milliers, quoi. C'est complètement délirant. C'est pas possible, quoi. Soit on met du nucléaire, soit on met du du charbon, et mais l'énergie dite renouvelable, ça peut être que marginal, enfin, il me semble. Enfin, c'est même sûr. Les cellules photovoltaïques réclament la même quantité de terres rares que pour les éoliennes, quoi, qui sont extraites dans les mêmes conditions, etc., qu'on ne sait pas recycler. Enfin, ça pose les mêmes questions écologiques que les éoliennes, quoi. Mais je sais pas, peut-être que oui, d'accord, ça peut produire autant, mais on passe encore à côté de la question principale de la société qu'on veut, la vie qu'on veut, le travail qu'on veut, etc. Qui était à l'origine ce qui était le discours porté par les écologistes dans les années 70, quoi, qui était plus libertaire, révolutionnaire, etc., que juste des questions d'aménagement technique du territoire, qui sont pour moi en plus pas spécialement, enfin qui sont des débats assez soporifiques. Intéressant, quoi.
Eh bien, je te remercie, Tom Jo. Je rappelle donc que tu es un des auteurs d'articles qu'on trouve sur le site internet chez renard.info et qui donc sont des articles, on va dire, d'analyse critique plutôt sur l'écologie, de ce que tu disais, en région Nord-Pas-de-Calais.